Salut les sportifs et les sportives, je suis Éloi Touhou, l'animateur de ce tout nouveau podcast qui s'appelle Planète Sport par la rédaction des Olympistes. Alors vous vous demandez sûrement qui sont les Olympistes? Eh bien très rapidement, nous sommes un média d'actualité sportive principalement composé des étudiants de l'académie ESJ Lille. Vous l'aurez compris, notre passion c'est le sport et ce podcast sera justement l'occasion de partager, de discuter avec vous de l'actualité sportive, bien sûr sur le ton de la rigolade et de la bonne humeur. Sans plus attendre, on attaque cette première émission avec la rubrique La Perf de la semaine, qui reviendra sur chacun de nos podcasts et qui sera un débat entre les rédacteurs des Olympistes sur un fait d'actualité. Allez, c'est parti, jingle!
Non, mais arrêtez!
Mais tu dis n'importe quoi!
On a le droit de pas être d'accord!
Je vais te rentrer aussi dans la gueule!
Tu veux toujours avoir raison!
Mes amis!
Ça, c'est des faux débats, ça!
Alors, pour ce tout premier débat, on va parler foot et notamment du foot anglais avec de la Première Ligue. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter les Olympistes avec moi pour ce débat. J'ai Arthur Picard. Salut Arthur, ça va?
Ça va super, Éloi, et toi?
Très très bien. Il y a aussi Théo Barnier qui est là. Ça va, Théo?
Salut Éloi!
Et enfin, Marius Vellero. Salut Marius, ça va?
Ça va nickel, et ouais.
Alors, la journée 8 de Première Ligue, elle s'est achevée hier, notamment avec le choc City-Liverpool qui s'est soldé par un match nul. Un nul qui a permis à Leicester de prendre la tête du championnat devant Tottenham et Liverpool. City et Arsenal sont également un peu à la traîne à la 10e et 11e place respectivement. Et enfin, Manchester United est bon dernier du Big 6 à la 14e place du championnat. Alors, est-ce que pour vous, les gars, Vu le contexte de la saison, est-ce que le Big 6 est-il toujours aussi impérial?
Pour moi, on ne peut pas juger maintenant. Il n'y a que 8 matchs qui ont été joués, voire des équipes comme City et United qui n'en ont joué que 7. On a vu dans les années précédentes qu'il y avait des équipes qui partaient mal et qui, au fur et à mesure de la saison, arrivaient à se rattraper. Donc, pour moi, non, on ne peut pas juger. Et oui, le Big 6 est toujours impérial. United va remonter, j'en suis certain. Arsenal et City, pareil, même si Arsenal, ça va être plus compliqué, mais de mon point de vue, il reste impérial.
Ah, je suis d'accord avec Théo, on ne peut pas encore juger sur cette saison, la saison ne fait que commencer. Mais si on juge sur un terme plus global, je pense que le Big Six n'est pas en danger. On voit même qu'il a tendance à s'affirmer. Le Big Six, c'est un terme qui est quand même assez récent, qui date des années 2000, voire même 2010. Manchester City est au top depuis l'arrivée de son propriétaire Emira à partir de 2010. Tottenham a atteint le podium pour la première fois en 2016-2017, il me semble. Et on voit que le Big Six truste les 6 premières places seulement 5 fois depuis cette période, donc en 2011, 2015, et 3 fois entre 2017 et 2019. Donc moi, j'aurais tendance même à dire que le Big Six se renforce et que ce n'est pas la saison dernière ou cette saison qui, pour le moment, inverse le débat.
Marius, t'en penses quoi, toi? Ouais,
clairement, j'étais sur la même idée, qu'Arthur. Mais le truc cette année, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que justement, on va avoir cette impression que le Big Six n'est plus du tout là. Alors qu'en fait, ça s'explique par exemple par le calendrier qui est hyper compliqué pour les 6 premières équipes. Enfin, Leicester aussi, pour le coup, avec la Ligue Europa. Mais ils vont avoir beaucoup, beaucoup de matchs et il va y avoir les blessures qui vont renforcer cette impression que c'est compliqué pour eux et tout un tas de choses en fait qui vont avoir tendance à faire que la Première Ligue va être très très serrée, mais au final le Big Six est toujours là quoi.
Bah justement, je voulais revenir sur ça, Marius, t'en fais bien d'en parler. Justement, là il y a la Covid-19, donc là je pense que le Big Six, la Première Ligue a fini assez tard et il y a eu l'Europe aussi derrière, donc en fait est-ce que le Big Six cette année va être désavantagé par rapport à des plus petites équipes aussi?
Désavantagé, je pense pas, dans le sens où il y a quand même des gros effectifs, ils le savent qu'ils vont les jouer ces compétitions, le calendrier il est connu à l'avance, tu tentes de te renforcer pour faire face justement à ce genre d'événement. Je pense pas qu'il y aura un désavantage. Après, j'aimerais revenir sur le fait qu'on parle, ils sont plus ancrés. Je comprends pourquoi les gens disent ça, c'est parce que à chaque match il y a des surprises, parce que la Première Ligue c'est un championnat où la plus petite équipe peut toujours poser des problèmes à la grosse. On l'a vu depuis le début de saison, regardez Aston Villa qui fait un début de saison de fou furieux, qui a été en mettre 7 à Liverpool, qui a été en mettre 3 hier à Arsenal. C'est comme ça, c'est la Première Ligue. Donc, je ne pense pas que ça posera de soucis.
Ouais, je suis d'accord avec Théo. La première ligue, c'est ça aussi. C'est le fait que les plus petites équipes peuvent battre n'importe qui et ensuite se faire battre par n'importe qui. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de ce championnat. Et même si on a vu quelques surprises l'année dernière au classement avec Leicester qui finit haut et qui confirme cette saison, ou les Wolves qui essayent de s'instaurer petit à petit de plus en plus haut, enfin, même comme l'a dit Théo, Aston Villa ou Southampton qui, l'espace d'un instant, a été premier ce week-end. Je pense que ces équipes feront toujours la surprise sur une, peut-être deux saisons, mais qu'au final, les plus régulières, même sur une saison ou deux, finiront plus loin du top 6. Bah, ces équipes qui sont le plus régulières, ça reste Chelsea, Arsenal et les quatre autres du Big Six, même si elles peuvent parfois connaître des périodes un peu plus creuses. Mais au final, c'est toujours les mêmes qu'on attend, c'est toujours les mêmes qu'on observera. Et je pense que ça ne changera pas cette année, ça ne changera pas sur les années à venir.
Mais justement, là, tu parles de la régularité. Moi, je pense à des équipes, bah, justement, comme Everton et Leicester, qui, je trouve, quand même, depuis 5 ans, restent régulières et qui arrivent quand même à titiller ce Big Six. Donc, quand même, on trouve, on assiste quand même à un nouveau truc, là, quand même, en première ligue.
Bah, comme disait Arthur, Everton, à part cette année, bah là cette année il y a un peu la hype, James et Ancelotti, mais ça fait 3 ans, et notamment l'année dernière, qu'ils sont vraiment pas bien. Leicester, on a toujours cette idée de l'équipe qui gagne le titre 2015, je crois, mais
2016.
2016.
Ouais.
Mais il y a eu un petit passage où c'était un peu moins bien, mais là ça fait 2 ans qu'ils sont revenus. Mais moi mon idée c'est que cette année, c'est l'année où il peut y avoir encore des surprises, parce que, bah, comme je disais, le calendrier, les petites équipes, elles ont des, comme Leicester, tout ça, elles ont des entraîneurs qui vont avoir des belles idées, qui vont avoir plus de temps pour les mettre en place lors des entraînements. Et du coup, cette année, peut-être qu'il va y avoir des surprises, mais je pense qu'au final, le Big Six va reprendre toute sa force, et notamment dès l'année prochaine.
Je suis assez d'accord avec Marius parce que c'est souvent, il parlait de ces équipes qui font la surprise une année. Pourquoi une année? Parce qu'au final, quand ils ont fait leur année de malade, ben, l'année d'après, ils se font dépouiller. C'était le cas de Leicester quand ils sont champions. Tu as les grands joueurs qui partent. Là, Leicester, ils font une grande saison, mais il va falloir penser à se renouveler la saison prochaine et même les saisons à venir parce que tu as des joueurs comme Vardy qui, mine de rien, ils commencent à prendre de l'âge. Et c'est ça le danger de ces petites équipes qui grandissent. C'est de garder un certain noyau pour continuer à progresser et à titiller ces gros d'Angleterre.
Ouais, je suis d'accord avec toi ce qu'a dit Théo, parce que tant qu'il n'y a pas un septième club qui arrivera à justement prendre ce statut de club qui peut garder ses joueurs, je pense qu'ils ne pourront pas, sur la durée, parvenir à côtoyer les 6 premières places chaque saison. C'est faisable sur une saison ou deux, mais sur la durée, si Everton, par exemple, confirme et finit deuxième, troisième, bah, rien ne nous dit que l'année prochaine, ils auront le même effectif, ils pourront compter sur les mêmes joueurs et pourront refaire la même performance. Bah, Leicester, c'est pareil. Et peut-être même Aston Villa, peut-être que Grealish va vouloir partir dans un club plus huppé. Peut-être que McGinn, ce sera pareil, même si voilà, ce n'est pas des cracks qui ont 20, 18, 19 ans. C'est des joueurs qui commencent à se confirmer. Mais on sait qu'en Première Ligue, un club comme Chelsea, un club comme Liverpool, aiment bien prendre ces joueurs justement qui ont de l'expérience pour aider les plus jeunes.
Je veux dire que Villa, c'est l'exemple de l'aspect éphémère de ces équipes. Villa, l'an passé, ils se sauvent à la dernière journée et là, ils font, faut le dire, un très bon début de saison. On ne sait pas ce que ça va donner. Il reste encore 30 journées. Pareil pour Everton qui assure 3 défaites d'affilée. Seul le temps nous le dira.
Et donc là, ouais, je suis d'accord avec vous sur quand même le long terme. Le Big 6 reste encore devant, que ce soit en termes de résultats. Mais après, je trouve quand même, je trouve sur le terrain, moi, je parle plus du terrain. Là, moi, je vois Tottenham cette année, c'est vraiment pauvre en termes de jeu. Et justement, des équipes comme Aston Villa, c'est plaisant à regarder. Est-ce que sur le terrain, quand même, il y a vraiment match, je trouve, maintenant entre le Big 6 et les autres équipes. Vous en pensez quoi?
Alors, moi, j'avais une idée là-dessus. C'est que, bah, c'est vrai que sur le terrain, c'est pas beau, les grosses équipes. Mais déjà, par exemple, Chelsea, bah, faut le temps de mettre tout ça en place. Et des équipes comme Tottenham et United, elles vont vivre à travers leurs individualités. Enfin, Tottenham, Son et Kane, ils font un début de saison incroyable. Et comme ça qu'ils vont gagner. Et quelque part, c'est dur de dire à ces joueurs-là, je vais te mettre dans ce système et tu vas faire ça pour moi. Alors que, je sais pas moi, une équipe comme Brighton, même s'ils n'ont pas des gros résultats, bah le coach va pouvoir modeler ses joueurs pour qu'ils servent son plan de jeu et que ça marche. C'est pareil à Southampton avec Hasenhüttl. Ils vont vraiment pouvoir développer leur jeu. Et c'est pour ça que visuellement, ça frappe que des petites équipes concurrencent des grosses équipes.
Je suis d'accord avec Marius. On voit bien que des petites équipes peuvent sortir entre guillemets des matchs plus jolis, plus plaisants à voir jouer, comme le Leeds de Bielsa par exemple, qui, bah, parce que c'est Marcel Bielsa, outre le très bon travail qu'il fait, il prend une hype incroyable pour le personnage du coach. Mais je pense que les grandes équipes cette saison, il n'y a pas qu'en Première Ligue qu'on voit ça. Quand on regarde le PSG, quand on regarde même la Juve ou le Barça, le Real, etc.
L'Espagne, ouais. Cette
saison, les gros clubs sont en difficulté dans le jeu. Personne n'arrive à produire quelque chose de vraiment plaisant à regarder, peut-être à part le Bayern et les clubs allemands. Mais entre par ça, le foot en ce moment, ils ont vraiment du mal. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment la saison pour les petits pour faire quelque chose. Quand on voit le match hier entre Liverpool et Manchester City, on voit qu'en deuxième période, ils sont crevés, ils n'arrivent plus à produire du jeu. Et je pense qu'avec la Ligue des Champions, etc., on ne pourra pas voir les six clubs du Big Six tous réussir à être réguliers sur toute la saison. Je pense que c'est pas possible. Et donc, à Aston Villa, Southampton ou Everton d'en profiter pour venir s'immiscer quelque part par là, quoi.
T'as parlé de rotation, moi j'aimerais revenir sur un truc. C'est vrai qu'avec donc ce calendrier dont on l'a évoqué plusieurs fois, il y a quelque chose d'important, c'est que ça tourne beaucoup, les clubs qui jouent la Ligue Europa comme Arsenal, comme Tottenham, qui jouent la Ligue des Champions comme Liverpool, et ben ça tourne, hein. Tu peux pas permettre de mettre le même 11 tous les 3 jours, quand tu joues tous les 3 jours pendant 6 semaines, c'est pas possible. Et forcément, bah, pour un entraîneur, t'as pas ton noyau. Marius, il parlait d'un truc intéressant, c'était les équipes qui ne jouent pas ces compétitions, comme Southampton, Aston Villa, elles ont leur noyau, elles peuvent le mettre en place et développer des choses. Eux, ils doivent faire face à la fatigue, et Jurgen Klopp s'est exprimé hier, et il a raison, c'est que c'est compliqué pour les joueurs de récupérer, mais pour les entraîneurs, ils font face à des effectifs qui sont décimés par les blessures, alors forcément, ça met en place des choses qui ne sont pas pour le coup les meilleures options qu'ils auraient à la base.
Ouais, et juste un petit mot là-dessus quand même, on peut peut-être dire aussi, donc ils ont beaucoup d'excuses, mais il y a certaines équipes comme Tottenham et Chelsea pour l'instant, enfin, on ne peut pas leur sortir que cette excuse dans le sens où, mine de rien, ils ne proposent quand même pas grand-chose et on ne sent pas des idées qui se dégagent tant que ça, même au-delà du fait des blessures.
Alors après, je pense que Chelsea, ça va se mettre en route là, parce que hier, Ziyech, il fait un gros match. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose cette saison avec Chelsea. Après, forcément, Tottenham, cette année, il n'y a pas d'identité de jeu et puis... Eux n'ont pas fait n'ont pas joué l'Europe cet été, donc ils n'ont pas trop d'excuses justement de ce côté-là pour les blessures.
Tottenham, ça force sur Gareth Bale, ça veut l'intégrer, ça veut faire un truc autour de lui, et je suis pas sûr que ça soit la meilleure des options quand tu as des mecs comme Lucas qui commençait à monter en puissance dans l'équipe. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure option pour eux.
Pour moi, Tottenham, c'est vraiment un cas à part, parce que t'as Mourinho, t'as le personnage Mourinho. Avec Manchester, il était très décrié, il avait aussi un peu de mal à mettre vraiment sa tactique en place. Là, avec Tottenham, c'est pareil, on a du mal à dégager une vraie patte. On voit une équipe très poussive. Et je pense que Tottenham, même si deuxième pour le moment, c'est toujours sur un fin de cycle. Quand ils vont en finale de Ligue des Champions, ça fait quoi ? Ça fait 2-3 mercato qu'ils ont recruté aucun joueur, il me semble, près d'un an, un an et demi. Et ils vont en finale de Ligue des Champions avec un effectif qui se connaissait vraiment, avec Pochettino qui arrivait vraiment à proposer quelque chose de plaisant. Et la saison d'après, bah, ça ne marche plus. Ils recrutent du Lo Celso, du Ndombele, du Cessegnon qui ont du mal à s'intégrer dans l'effectif. Du coup Pochettino part, Mourinho arrive. Et là, c'est pareil. Tottenham finit combien de temps l'année dernière ? Finit 8e. 7e, 8e, 6e. Non, ils font 6e. Du coup, cette année, ça repart sur les mêmes bases. On va intégrer Gareth Bale, on va intégrer de nouvelles recrues. Et justement, ce qui a fait la force de Tottenham, ben, on ne le retrouve plus des deux dernières saisons. Donc, c'est peut-être un fin de cycle, mais grâce à des individualités un peu plus fortes, ils arriveront quand même à finir assez haut. Donc, ouais, c'est un cas à part, Tottenham.
Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur qui rentre aussi en compte ? C'est l'aspect économique. On voit quand même que tous les clubs ont un minimum d'argent. Donc en fait, tous les clubs ont un minimum de budget pour construire une vraie équipe. Est-ce que ça joue aussi pour inquiéter le Big Six ?
Je pense que ça ne joue pas encore pour inquiéter le Big Six sur la durée, comme on l'a dit. Mais ça permet aux clubs de rester compétitifs entre eux pour progressivement venir les inquiéter. Non, mais ouais, Leicester qui a beaucoup d'argent... Tous les petits clubs qui peuvent rester compétitifs justement grâce aux droits TV, ce qu'on ne voit pas en France, ça permet aux clubs de rester compétitifs, aux grands clubs justement eux aussi d'avoir de la compétition, et ça permet aux champions de rester homogènes. Mais de là à ce que les petits clubs arrivent rapidement au niveau des grands, je ne suis pas sûr.
Oui, et puis il y a la manière dont ils utilisent l'argent. Enfin, je trouve que Leicester, Wolverhampton... C'est très cohérent dans l'utilisation de tous ces sous. Alors qu'au contraire, bon, bah alors, là récemment, c'est plus Man United qui a foiré pas mal de choses. Eux, ils vont avoir plus de mal à dépenser intelligemment tout l'argent qu'ils ont.
Du coup, là, on a parlé un peu des droits TV. Et moi, j'ai entendu parler du big picture. Alors, est-ce que déjà quelqu'un pourrait juste nous en parler? Parce que je pense que ça peut changer aussi la puissance du Big Six dans le championnat.
Oui, donc le big picture, c'était un projet lancé notamment par Manchester United et Liverpool, qui consistait donc déjà à faire passer la Première Ligue à 18 équipes, mais la grosse réforme, c'était de réformer le système de gouvernance de la Première Ligue. Donc en gros, aujourd'hui, pour prendre une décision, il faut que 16 équipes la votent et disent oui, alors que là, ça réduirait le filtre à 9 équipes, et donc les 6 équipes du Big Six. Donc ça les avantagerait beaucoup pour ce qui est des droits à télé et tout ça. Et donc le projet a été retoqué, donc il n'aura pas lieu, mais par contre, si ça a fuité dans la presse, c'est qu'a priori, le Big Six ne va pas en rester là et va sûrement chercher à réaffirmer encore plus son autorité sur le football anglais dans le futur avec d'autres réformes.
Bah merci Marius pour ces infos, on se tiendra au courant. Bah merci les gars pour ce premier débat, c'était cool.
Merci à toi Eloi.
Pas de souci Eloi.
Merci Eloi.
On suivra avec attention les prochaines journées de Première Ligue et ça pourrait être intéressant, je pense, de faire un point la mi-saison avec vous. En attendant, c'est maintenant l'heure de la chronique En pleine mer sur le Vendée Globe, une course à la voile exceptionnelle qui s'est lancée dimanche à 14h, l'occasion de revenir sur la course et de vous présenter les favoris à la victoire finale. Moussaillon, tenez-vous prêts, c'est la chronique En pleine mer sur le Vendée Globe. Ce dimanche 8 novembre, ils étaient 33 skippers, 6 femmes et 27 hommes à s'élancer pour cette édition 2020 du Vendée Globe. Une des dernières grandes aventures sportives et humaines de nos jours. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Vendée Globe, c'est tout juste une course de bargeaux. Pour vous donner envie, le Vendée Globe, c'est une course à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Le tout sur un tout petit bateau d'à peine 18 mètres. Hein. Donc moi, rien que ça, chapeau mesdames, messieurs les skippers, vous avez déjà tout le respect de la rédaction. Il y a des aventures dont on ne revient jamais indemne, de grands moments de peur, de solitude et d'émotion. Le Vendée Globe fait sans aucun doute partie de ces courses hors du commun. Une course légendaire dont l'unique objectif est d'en revenir vivant. Car oui, les marins savent quand ils partent, mais ils savent rarement quand ils vont revenir et surtout s'ils vont revenir sains et saufs. Un périple de 46 000 km qui, croyez-le moi, change plus d'un homme et d'une femme. Oui, ces skippers, ce sont de vrais sportifs, ce sont pas juste des footballeurs qui se roulent la pelouse le samedi soir. Non, non, ce sont de vrais gladiateurs des mers. Alors en cette année 2020, rythmée par la Covid-19, hein, vous savez, nos 33 marins se sont élancés quand même pour une édition un peu spéciale. Alors dimanche, pour la première fois de l'histoire du Vendée, le chenal des Sables d'Olonne sonnait vide. Aucun public pour acclamer ces héros des temps modernes. Pour vous donner un ordre d'idée, habituellement sur le départ du Vendée Globe, il y a 350 000 personnes pour acclamer les skippers. C'est une vraie ambiance de Ligue des Champions. Bah, dimanche c'était 100, mais c'était aussi tout émouvant. On a vu les larmes de Clément Giraud, de Benjamin Dutreux et même derrière notre télé, ça foutait le frisson comme on dit. Hein. Et puis franchement, on va se le dire, vous nous faites déjà rêver. Ce départ, il a été très émouvant, on a eu de très belles images qui franchement ont redonné espoir à beaucoup de gens. Donc déjà, merci à vous. Alors maintenant, je vais m'adresser plus aux connaisseurs de la discipline, en tout cas ceux qui suivent un peu le monde de la voile, et puis même ceux qui n'y connaissent rien du tout et qui souhaitent découvrir davantage le Vendée Globe et de comprendre davantage ce sport. Restez, ça peut toujours vous être utile. Alors cette année, on va probablement assister à une tour du monde à 4 vitesses. Alors je m'explique, les voiliers de dernière génération aux 60 pieds historiques, 4 catégories de bateaux se dessinent au départ du Vendée Globe 2020. En effet, la flotte n'a jamais été aussi hétérogène que cette année. Alors les foilers de dernière génération apparaissent nettement comme les favoris à la victoire finale. Alors pas de soucis, je vois ceux qui paniquent et se disent c'est quoi les foilers. Alors je vais vous expliquer cela. Alors les foilers, pour faire très simple, ce sont des bateaux qui possèdent de part et d'autre du navire des sortes de moustaches. Et en fait, ces moustaches sont appelées des foils. Et ces foils permettent de surfer sur l'eau, permettent aux bateaux de surfer sur l'eau et de prendre davantage de vitesse. Alors, contrairement à l'édition précédente, près de la moitié de la flotte possède cette année des foils. Donc c'est une révolution quand même technologique au sein du monde de la voile, mais ça paraît maintenant indispensable. On va aussi parler des favoris pour cette édition. Alors pour la rédaction des Olympistes, on a choisi 4 skippers qui pour nous peuvent aller toucher le Graal et atteindre ce Graal. Alors le premier qu'on a choisi, c'est Jérémy Bayou avec son voilier Charal, qui a su montrer tout son talent cet été pour emporter la Vendée Arctique. Donc c'est un très beau bateau et je pense qu'il va mener d'une main de maître cette course. Le second qu'on a choisi, c'est le britannique, l'excentrique britannique Alex Thompson, avec son très beau bateau Hugo Boss, qui est toujours plein d'innovations et qui a encore sa carte à jouer cette année. Je pense que le britannique voudra encore se rattraper de l'édition précédente où il avait fini deuxième. Le troisième qu'on a choisi, alors c'est le petit nouveau de cette année, il s'appelle Charlie Dalin, c'est le bisu du Vendée Globe. Alors lui aussi, il a un bateau très performant et je pense qu'il aura à cœur de bien faire les choses pour sa première participation. Et enfin, le dernier qu'on a choisi, qu'on a sélectionné, c'est Thomas Ruyant. Alors clairement, pour nous, c'est le petit chouchou de la rédaction. Ouais, on a peut-être été un peu chauvin sur ce coup-là. Il est dunkerquois, on fait nos études sur l'île, donc forcément, on l'a choisi. Hein. Avec un bateau très rapide sur Linkout, Thomas Ruyant a toutes ses chances et je pense qu'il aura... qui voudra aussi rattraper son Vendée Globe 2016 un peu raté où il avait abandonné dans l'océan Indien. Donc on croit en toi, allez Thomas, et fais-nous rêver. Hein. Alors on a parlé là des favoris à la victoire finale, mais il serait injuste d'oublier les autres, car pour certains la victoire est déjà d'être sur la ligne de départ. Alors on pense notamment à Alexia Barrier avec le plus petit budget de la flotte et le plus vieux bateau de la compétition avec de 98 de mémoire, ou encore Dida Costa ou la britannique Pip Air, tous deux avec des bateaux de 1999. Mais en fait je crois que c'est ça qui fait la beauté du Vendée Globe. Tous les skippers ont des objectifs différents, pourtant ils sont tous réunis autour d'une même passion, le plaisir de naviguer et d'explorer le monde. Alors il me reste plus qu'une seule chose à vous dire, marin et skippeuse du Vendée Globe, bon vent, et je crois le plus important cette année, faites-nous rêver car on en a vraiment besoin. C'était la chronique en pleine mer sur le Vendée Globe. Alors en tout cas, une chose est sûre, on est de tout cœur avec vous les marins pour cette fabuleuse aventure. Et on espère surtout que vous reviendrez sains et saufs l'année prochaine au Sable d'Olonne. Si vous avez aimé cette chronique, pas de panique, vous pourrez retrouver la chronique en pleine mer sur nos prochains podcasts où on fera un bilan régulier de la course, on parlera de la position des bateaux, des anecdotes en pleine mer de nos marins et on pourra aussi revenir sur des points techniques de navigation. Alors maintenant, on va changer de sujet et on passe à la rubrique l'Olympiste de la semaine.
Bonsoir à vous tous, invité spécial.
La France est fantastique, grande
Un portrait ou une interview, c'est l'Olympiste de la semaine. C'est maintenant l'heure de l'Olympiste de la semaine, une rubrique qui reviendra à chaque fois sur le podcast Planet Sport. Alors ça sera l'occasion de vous proposer soit une interview ou un portrait d'un sportif qui a marqué la rédaction. Et cette semaine, c'est Naël Magzoum qui s'en est chargé et qui vous propose un très beau portrait. Salut Naël, alors pour toi, c'est qui l'Olympiste de la semaine ?
Eh bien Éloi, si je ne te dis que son nom, ça ne va sûrement rien te dire. Il s'agit de Rémi Desbonnet. Un parfait inconnu, pensez-vous ? Pas loin, enfin, sauf pour les connaisseurs de handball. En tout cas pour les autres, petite séance de rattrapage, Rémi Desbonnet, c'est ça.
C'est bien donné ! La réponse énorme de Rémi Desbonnet ! Il avait choisi le bon côté sur sa ligne. Rémi Desbonnet, choix payant. Rémi Desbonnet parti du bon côté dans un deuxième temps. La double parade de Rémi Desbonnet. Oh, énorme !
Et c'est récupéré.
Oh, incroyable exploit ! Et la réponse de Rémi Desbonnet ! Ouais, il a fait le bon choix, Rémi Desbonnet, en restant sur sa ligne. Il a bien senti le coup, il est parti du bon côté. Il détourne ce 7 mètres de Hugo Desca.
Mais alors, qui est cet homme qui fait délirer les commentateurs télé ? Un gardien de but, mais pas comme les autres. Rémi Desbonnet, 28 ans, 1m82, est l'illustration parfaite du dicton « petit par la taille, mais grand par le talent ». Et dans le handball moderne, Dieu sait que la taille est un critère de sélection. Pourtant, le plus petit gardien du championnat de France en est aussi l'un des tout meilleurs. Cela fait près de 10 ans qu'il multiplie les exploits Lidl Star League, avec une montée en puissance assez folle ces 3 dernières années.
Alors au vu de ce que je comprends et de ce que tu m'expliques, j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur atypique. Alors pourquoi nous en parler aujourd'hui ?
Eh bien mon cher Éloi, pour la simple et bonne raison que le Nîmois vient de connaître sa première convocation en équipe de France, en tout cas chez les A. Car si Desbonnets s'est fait attendre dans la meilleure équipe du monde, il a su y briller dans les catégories jeunes, médaillé de bronze au Mondial U21 en 2013 par exemple. À cette époque, le jeune homme de 20 ans est lancé dans le grand bain de la première division, mais aussi de la Ligue des Champions. Se révèle alors aux yeux de l'Europe un garçon fou, auteur d'un but incroyable, un lob de l'autre côté du terrain contre l'équipe d'Hambourg, future gagnante de l'édition.
Étonnant comme le jour où il s'est fait connaître par toute l'Europe du handball. C'était il y a un an face à Hambourg, en pleine affaire des paris truqués. Rappelez-vous, Desbonnets, alors goal remplaçant de Montpellier, réussit l'impensable en Ligue des Champions. Il marque un but et relance son équipe. Rémi, 20 ans, est alors le symbole du renouveau du MHB.
Malgré tout ça, l'historique club du Montpellier Handball, dans lequel il a été formé, ne lui propose aucun contrat professionnel. À l'inverse du rival et voisin, le SAM Nîmes, qui croit en le phénomène Desbonnets. C'est alors le début d'une histoire sans fin. Le gardien s'épanouit dans une ville de connaisseurs qu'il ne veut plus quitter, allant jusqu'à prolonger cet été son contrat jusqu'en 2024. Pourtant, tout n'a pas été simple pour Desbonnets. Ne mesurer qu'1m82 est une rareté extrême pour un gardien à ce niveau. Alors malgré les obstacles, Rémi n'a jamais baissé les bras, jamais cessé de travailler non plus. Cet acharné du travail n'a pas eu d'autre choix que de ne rien laisser au hasard pour devenir l'un des plus grands. Une capacité d'anticipation et de lecture hors norme, un dynamisme fou, mais aussi et surtout des à-côtés sur lesquels Desbonnets a toujours misé. Garçon extravagant, au caractère bien trempé, c'est en véritable leader que ses coéquipiers l'ont toujours perçu. Rémi Desbonnets, c'est aussi et enfin la révolution du gardien de but au handball. Un poste dont le rôle n'a cessé d'évoluer ces dernières années, passant du dernier rempart au premier attaquant, puis maintenant au premier buteur.
Et en défense, le pass 6 de Rémi Desbonnets, déjà la relance directe impeccable.
Coaché par la défense, pas de gardien.
Oh oui,
et
c'est
là,
pour Desbonnets.
Se régaler Rémi Desbonnets, il a tout de suite pris l'information. Le regard vissé à l'horizon. Ouais, trop
le pass 6.
À nouveau, oh, le pass 6. À nouveau, la relance. À nouveau, Desbonnets.
Oh, encore le deuxième déjà, deux pass 6. Énorme. Énorme l'entame de match de Rémi Desbonnets.
Sa spéciale, le pass 6. Un tir directement bloqué à deux mains. C'est aussi cela qui lui permet de marquer aussi souvent et de se révéler comme un indispensable de la Green Team. Des prestations qui ont donc enfin fini par être remarquées. À l'occasion d'une semaine de stage avec les Bleus, le gardien a pu profiter de l'absence de son homologue aixois Wesley Pardin, positif au coronavirus. Alors maintenant que Desbonnets a tapé à la porte des plus grands, on espère qu'il sera capable d'écrire une nouvelle page de son histoire, hors norme.
Merci Nel pour ce très beau portrait sur le gardien de hand Rémi Desbonnets. En tout cas, on espère qu'il jouera ses prochains jours avec les experts et on suivra de très près ses premières minutes sous le maillot bleu. Maintenant, c'est Mathieu Eman qui nous a préparé un petit édito pour la rubrique « C'est l'heure du briefing ». Et je crois qu'il a un petit coup de gueule à passer au Club France en Ligue des Champions.
Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!
Attention, dessus!
Non! C'est pas possible!
Oh les gars, c'est l'heure du briefing!
Le constat est accablant. Le début de campagne européenne des clubs français est un fiasco. L'OM n'a pas marqué le moindre but. Rennes reste bloqué à 1 point. Le PSG a déjà perdu 2 matchs. Et l'OGC Nice a déjà pris 9 pions dans la musette. À côté de ce triste bilan, le LOSC semble être un ovni. Une anomalie du paysage footballistique français. Briller en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, quelle drôle d'idée. La moitié de la phase de poule est faite et pourtant le bilan paraît irrémédiable. Après un mois d'août qui a vu deux équipes de la Farmers League atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, le contre-coup est dur à encaisser. L'impression d'une immense gueule de bois après avoir bu et festoyé toute la nuit. Et oui, le foot français se réveille de cette soirée et le bilan est très amer. Aucune meuf emballée, on s'est même fait remballer d'ailleurs. Seulement une bride de souvenirs d'un Maxwell Cornet, d'un Choupo-Moting au sommet de leur art, peut-être un souvenir erroné d'ailleurs, et un mal de crâne comme pas possible. Alors, comment le soigner ce mal de crâne ? Le symptôme est récurrent chez le patient, et plusieurs traitements ont déjà été testés. Faire grimper les droits télé pour donner une force de frappe économique semblable à leurs homologues européens, une bonne piste, mais Mediapro est en train d'enfiler son masque de Didier Raoult pour faire peur aux patients français. Miser sur des fonds d'investissement étrangers ? Les Qataris chez le PSG et, dans une moindre mesure, les Chinois à Lyon doivent se sentir très seuls, abandonnés tel un service de réanimation en pleine seconde vague. Les anglophones ont misé sur la French Riviera, les Britanniques à Nice et les Ricains à Marseille. Mais la Côte d'Azur semble enrouée en Europe avec des deux côtés une défense immunitaire totalement absente. Les virus Porto et Leverkusen s'en sont donnés à cœur joie pour infecter les deux patients très symptomatiques. Alors, est-ce que notre patient est condamné à vie à être symptomatique? Sûrement pas. Ce serait déjà mettre de côté le très bon début de campagne du LOSC. Docteur Galchi a trouvé un vaccin et le patient lillois se porte à merveille, enchaînant les très bonnes performances. Loin est désormais le temps où ce dernier tombait dans le bourbier de Carabag. Malheureusement, Doc Christophe n'est pas décidé à partager la moindre dose de vaccin. La recette paraît pourtant simple sur le papier. Une profondeur d'effectif permettant de doubler, voire tripler chaque poste. Une discipline tactique avec un projet de jeu cohérent, le tout pimenté d'un zeste de folie, l'assaisonnement turc ayant le vent en poupe en ce moment. Alors oui, la France est en train de réaliser l'une de ses pires campagnes européennes depuis bien longtemps. Et une constante présente depuis 24 ans a disparu. Et oui, l'OL n'a pas réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe cette saison. Respect et histoire forte avec la compétition, l'OL du 21e siècle avait la recette, avec 3 demi-finales en 10 ans. Mais chef Rudy Garcia a visiblement perdu les clés de la cuisine. Alors, le repas est très fade cette année. Le pays de la gastronomie fait pire que la Grèce, l'Ukraine, la Belgique ou les Pays-Bas. Et en attendant de trouver un remède, le patient a mal, très mal.
Merci Mathieu, on espère aussi comme toi que les clubs français arriveront à se ressaisir sur la prochaine journée de Ligue des Champions. Sinon, ça va commencer à sentir mauvais pour voir des clubs de Ligue 1 jouer les 8e de finale. Hein. On croise les doigts. Malheureusement, c'est la fin de ce tout premier podcast Planet Sport qui est disponible sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil à notre site web http://lesolympistes.com pour lire nos articles et à nous suivre également sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore Instagram pour plus de contenu. Je remercie également l'ensemble de la rédaction pour cette toute première émission et on vous dit à très vite pour un nouveau podcast. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport !